Bernard Lahire, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir accordé un entretien. Vous êtes sociologue, professeur à l'École normale supérieure de Lyon, directeur du groupe de recherche sur la socialisation. Depuis une quinzaine d'années, vous menez une œuvre, enfin, vous conduisez une œuvre qui est riche maintenant d'une quinzaine d'ouvrages. Et au centre de cette œuvre, il y a une proposition théorique très forte, qui est au fond une remise en cause de la notion d'habitus chez Pierre Bourdieu et la proposition de faire de la sociologie à une autre échelle. Est-ce que, en termes peut-être très simples, vous pourriez nous expliquer en quoi consiste cette proposition théorique que vous faites en sociologie?
Oui, bien sûr. Alors, cette question, elle est venue petit à petit, hein, au fur et à mesure des enquêtes empiriques. C'était pas un postulat de départ. Je suis pas rentré en sociologie avec cette idée-là, mais si vous voulez, moi je partais du problème de l'habitus, on va dire, de cette notion qu'avait mise au point Pierre Bourdieu pour essayer d'arriver à comprendre finalement ce que c'était que le social à l'état incorporé. Qu'est-ce que nos expériences sociales nous font finalement, comment elles restent en nous, comment elles sont cristallisées sous la forme d'un certain nombre d'inclinations, de dispositions à voir, à sentir, à agir d'une certaine manière. Bon. Et Bourdieu a formulé ce type de problème. Simplement qu'il a inscrit dans la définition de l'habitus l'idée, par exemple, d'un système de disposition qui se transposait, qui circulait d'un domaine de pratique à l'autre. Et on a une impression de grande cohérence quand on lit la définition de l'habitus, ou certains usages de l'habitus, par exemple dans la distinction travail sur les pratiques culturelles et styles de vie des Français. Et petit à petit, moi, j'ai remis en question ces idées de transférabilité des dispositions, c'est-à-dire est-ce que nous transposons en permanence les mêmes dispositions dans nos différentes pratiques, dans les différents domaines de la pratique, en matière alimentaire, sportive, dans les rapports qu'on a avec notre conjoint, avec nos collègues de travail, etc. Est-ce que c'est toujours la même petite matrice qui est en fonctionnement, ou bien est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça? Voilà. Il y avait cette question-là qui s'est posée progressivement à moi, avec peut-être une des caractéristiques de la question que je me posais, c'était le fait de bien distinguer l'usage qu'on pouvait faire de l'habitus pour parler des grandes caractéristiques des groupes ou des classes, ce que je crois que Bourdieu essayait de faire finalement. Dans la distinction, on parle d'habitus de classe ou de fraction de classe, alors que la notion d'habitus en elle-même appelait, je pense, à des développements pour comprendre la socialisation des individus de ces classes.
Vous avez une critique quand même très dure de cette notion d'habitus. Je pense à un passage de L'Homme pluriel où vous dites, au fond, vous renvoyez la notion d'habitus au contexte très précis dans lequel elle a été formulée, elle a été forgée, c'est-à-dire, au fond, dans l'ethnographie kabyle, des premiers travaux de Bourdieu. Et vous dites, d'une certaine manière, cette vision d'un fonctionnement social très homogène correspond à des sociétés qui ne sont pas les sociétés très différenciées dans lesquelles on vit. Oui. Donc au fond, il y a on pourrait dire dans votre travail, il y a une tension entre cette description de l'individu dans des sociétés très différenciées et une réflexion plus générique sur l'individu, sur, j'allais dire, l'irréductible pluralité de l'individu, quels que soient les contextes. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous positionnez dans ce débat sur l'individu et son historicité, quelque part?
Oui, si vous voulez, moi, le titre de mon ouvrage, L'homme pluriel, n'est pas un bon titre. Il a prêté à des usages qui m'ont plutôt embêté, si vous voulez. Je dirais pas que l'acteur est, en tant que tel, universellement pluriel. La bonne question à se poser, c'est quelles sont les conditions sociales, historiques, de production d'un acteur individuel qui est plus ou moins pluriel, qui peut être extrêmement homogène dans certaines situations sociales, dans certaines situations historiques, et notamment dans des sociétés où, finalement, Il y a peu de concurrence socialisatrice pour les individus, qui peuvent même connaître les mêmes conditions de socialisation que leurs parents, donc il n'y a pas d'écart intergénérationnel dans les conditions de la socialisation. Ils ne sont pas pris entre divers types de socialisation. Il y a des sociétés sans école, donc on n'a pas cette tension entre l'école et la famille, par exemple. Des sociétés, évidemment, sans télévision, etc. C'est-à-dire que on voit très bien que ce qui introduit la pluralité des dispositions, ce sont des situations historiques qui sont les nôtres et qui sont des situations de concurrence, finalement, éducative ou socialisatrice. Donc, pour moi, la bonne question, c'est dans quelles conditions historiques un individu peut devenir pluriel.
D'une certaine façon, on voit bien la pluralité des contextes fait émerger la pluralité des dispositions chaque individu trouve en lui. Alors, il y a un exemple qui, peut-être on peut y venir quelques secondes pour donner un peu de chair et de concret, c'est la question des transfuges. Oui. C'est au fond cette question des individus qui sortent de leur classe et qui parviennent à intégrer différents habitus. Et c'est quelque chose que la sociologie de Bourdieu avait beaucoup de mal à accepter ou à faire rentrer dans ces catégories. Et je crois que c'est une des notions, enfin un des types de trajectoires sociales sur lesquelles vous vous arrêtez beaucoup pour construire cette...
Oui, absolument. Mais si vous voulez, c'est un bon exemple, le cas des transfuges, parce que je dirais, dans le modèle de Bourdieu, c'était nécessairement un cas d'hétérogénéité dispositionnelle, de gens qui se comportent de manière très différente dans des secteurs très différents de leur vie, qui peuvent reprendre leur accent populaire quand ils sont avec leur famille d'origine, qui peuvent garder des traits dispositionnels populaires quand ils mangent, par exemple, mais en revanche, qui peuvent tout à fait être acculturés, socialisés à leur nouveau milieu dans d'autres domaines.
Aller à l'opéra ou des choses comme ça.
Absolument. Et être des grands intellectuels, des gens qui ne parlent pas du tout comme leurs parents parlaient, qui ne réfléchissent pas de la même façon, qui n'ont pas les mêmes goûts, les mêmes appétences, etc. Mais on en faisait un cas tout à fait exceptionnel. C'était vraiment le cas atypique qui confirmait la règle de l'habitus cohérent, homogène, etc. Alors, moi, évidemment que les grands cas de transfuges sont des cas exceptionnels. On sait très bien, il suffit de prendre des tables de mobilité sociale pour savoir qu'il y a finalement très peu de grands parcours comme ça de mobilité sociale ascendante d'ailleurs ou déclinante. En revanche, ce que j'ai essayé de montrer dans La culture des individus, c'est un ouvrage qui portait sur les pratiques culturelles des Français, c'est qu'il y a un grand nombre de petits déplacements. Il y a des déplacements à l'intérieur d'une vie, il y a des gens qui changent de milieu professionnel, il y a de la mobilité donc professionnelle individuelle. Il y a des mobilités intergénérationnelles qui parfois sont très faibles, mais qui ont des conséquences importantes. Il y a parfois de la mobilité sociale qui paraît nulle, parce que les enfants ont à peu près la même situation socio-professionnelle que les parents, et en même temps ils sont allés plus loin scolairement. Et ça change tout dans le rapport qu'ils peuvent avoir à la culture. Ils n'écoutent pas les mêmes musiques, ils n'ont pas les mêmes sorties culturelles, etc., etc. Donc, on a une multitude de petits déplacements. Il y a l'effet des conjoints, des réseaux de sociabilité, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si on considère le rapport aux conjoints, le rapport aux amis, les petits déplacements qu'il y a dans une trajectoire individuelle ou dans une trajectoire familiale, ben on se rend compte qu'il y a beaucoup de petits écarts. Et que ça s'intériorise, que les acteurs ont appris à se comporter différemment dans des conditions, dans des contextes différents.
Voilà, en fait, un des maillons, je crois, de l'émergence de cette réflexion, c'est l'idée justement de réflexivité dans les pratiques. Parce que Bourdieu avait une conception, au fond, presque l'habitus intériorisé est un sens pratique naturel. Au fond, on est totalement habitué, comme un joueur de foot, à dribbler sur un terrain. Et au fond, vous avez montré qu'il y avait une forme de réflexivité permanente de l'acteur sur ses propres pratiques. Okay. Est-ce que c'est cette réflexivité qui fait justement cette capacité d'évoluer, de s'adapter au contexte et finalement pour, de ne pas être face au mur hein, des codes culturels tels que Bourdieu le décrivait au fond. On est tous des idiots culturels.
Alors, je pense que moi, je dissocierais les deux problèmes. C'est-à-dire que sur la question de la réflexivité, Bourdieu en faisait aussi un cas plutôt exceptionnel. On est réflexif en état de crise. Voilà ce que disait Bourdieu. Ce qui est vrai.
Ce qui est
La
vrai.
plupart du temps, quand on est désajusté, on est obligé de se poser des questions.
Par exemple, quand on devient parent, quand on
Ah,
sort de l'adolescence,
absolument.
à des moments précis dans l'existence
Oui,
sociale.
et même dans des conditions extrêmement pratiques, vous pouvez marcher comme un somnambule et aller de votre domicile à votre lieu de travail sans vous poser de questions, sans savoir même comment vous avez traversé, etc. Il suffit qu'il y ait des travaux pour que d'un coup vous soyez obligé de vous réveiller et de dire, bon, par où je dois passer? Donc, c'est quand les habitudes sont remises en question que, effectivement, il y a de la réflexivité. Alors, il y a beaucoup plus de réflexivité que ça. Ça, c'est un point que j'ai essayé de développer dans l'homme pluriel et de montrer qu'il y a des petites réflexivités dans la vie quotidienne en permanence. Qu'en plus, il n'y a pas que des gros désajustements, des gros décalages. Là aussi, il y a en permanence des micro-décalages, des micro-ajustements. L'immigration, c'est un cas de désajustement. Les transfuges de classe, c'est des cas de désajustement. Tous les gens qui sont transplantés d'une manière comme d'une autre, qui vont en prison, qui vont à l'hôpital, qui, etc., etc., vous avez une multitude de formes de décalage, où on vous force finalement à changer vos habitudes. Un cas très classique, c'est l'école. Vous mettez un enfant de milieu populaire très tôt, et on a une école maternelle en France qui fait que les enfants de milieu populaire peuvent fréquenter l'école très très tôt. D'emblée, vous les mettez dans une situation où ils sont confrontés à d'autres manières de parler, de se tenir, à d'autres types d'intérêts, à d'autres types de questionnements. Donc ils sont en crise en permanence. D'ailleurs, on pourrait dire que l'échec scolaire, c'est une crise. Quand on voit un enfant désajusté dans une salle de classe, c'est le signe d'un échec scolaire. Il ne comprend pas exactement ce qu'on lui dit, il ne se comporte pas comme il faut, on le sanctionne négativement très fréquemment, ou beaucoup plus fréquemment que d'autres, etc., etc. Donc je pense que la réflexivité est beaucoup plus présente qu'on ne l'a dit. Ceci dit, je pense que la pluralité dispositionnelle a peu à voir avec cette réflexivité. Elle a des effets sur la réflexivité, mais elle n'est pas directement liée. On est le produit de contextes qu'on est amené à fréquenter la plupart du temps, indépendamment de notre volonté. On nous met à l'école, on est dans une famille, on nous met dans un club de foot, on va dans différents endroits, et à chaque fois, on prend le risque, finalement, d'être socialisé différemment. Et l'acteur social est en mesure, à mon avis, d'intégrer toutes ces expériences en les cloisonnant relativement, en apprenant que là, on peut agir comme ça, mais on ne peut pas agir comme ça. Il va être rapidement sanctionné, soit par l'indifférence des gens qui vont dire bon, comment ils se comportent, soit par des sanctions comme à l'école, où on lui dit c'est pas ça qu'il faut faire, tais-toi, assieds-toi, et ainsi de suite. Donc, en permanence, il a des signes pour lui dire ça, là, tu ne peux pas faire ça. Et il apprend qu'ailleurs, au contraire, il faut faire ça. Donc, je pense qu'il apprend à se comporter différemment dans des espaces et à des moments différents. Est-ce que ça l'amène à plus de réflexivité? Je pense que c'est quand ces choses-là se confrontent que ça produit de la réflexivité. Et donc, effectivement, des acteurs, plus ils sont pluriels, plus ils ont, je pense, de chances statistiques d'être réflexifs à cause de ces confrontations d'univers ou de contexte.
D'accord. Bon, on voit bien, en tout cas, quand vous énoncez ou quand vous formulez j'allais dire les hypothèses ou les thèses que vous avancez. Par exemple, on prend le cas de la crise de l'échec scolaire, un cas très concret qui est battu, rebattu par les études sociologiques. Et pourtant, votre approche, elle vient, sa spécificité, de la perception ou de la mise en lumière de la crise vécue par l'individu face à une forme de socialisation qui, d'une certaine manière, dévalorise ses savoirs ou qui ne les reconnaît pas ou qui lui impose une forme de savoir, voire de langage qui lui est extérieur. Donc, c'est toujours à partir de l'individu qu'au fond, le social va se révéler. Et il y a une métaphore que vous employez, alors on reviendra sur la méthode, l'épistémologie de l'usage de la métaphore que vous faites, mais il y a une métaphore que vous employez qui est celle du pli, où au fond, le social s'étudie à partir de l'individu grâce au pli qu'il a laissé. Est-ce que vous pourriez nous développer ce que vous entendez par cette métaphore du pli?
Si vous voulez, c'est une image qui m'est venue assez rapidement à l'esprit parce que j'avais l'impression que les sociologues classiquement étudiaient le social à l'état déplié, c'est-à-dire par exemple une culture de groupe, une culture d'institution. On va travailler sur, par exemple, telle ou telle institution religieuse et la socialisation catholique, protestante, etc. On va travailler sur les effets de la socialisation par le milieu familial, par la classe sociale. On va étudier la socialisation politique. Bon. Et à chaque fois, on prend des univers, des domaines de pratique ou des institutions, des groupes parfois, et on travaille sur ces ensembles collectifs. Voilà. Le problème, c'est que les individus, ils traversent toutes ces institutions et ces groupes. Donc, on ne peut pas découper un individu, s'il est protestant, qu'il est de milieu ouvrier, que c'est un homme plutôt qu'une femme, qu'il est de telle ou telle génération, etc. C'est l'ensemble des effets de génération, d'appartenance confessionnelle, d'appartenance sociale, au sens de milieu social, d'origine et d'appartenance, etc. C'est tout ça qui va se replier en lui pour faire la singularité de l'ensemble de ses comportements. Et c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué. Autant les sociologues sont très à l'aise quand il s'agit d'étudier statistiquement des groupes et des écarts entre groupes. Le grand classique de la sociologie depuis Durkheim, c'est la variation des comportements d'un groupe à l'autre, à l'intérieur d'une société. La sociologie ayant plus ou moins abandonné les écarts d'une société à l'autre. Elle l'a laissé plutôt à d'autres. Mais à l'époque, il s'intéressait à ça. Il s'intéressait aussi aux variations historiques. Le cas de Durkheim, on ne s'embêtait pas pour faire des grandes analyses de sociologie historique. Donc il y avait des variations inter-époque. Puis on a resserré sur des variations entre les différents groupes. Et puis, on s'est un peu arrêté là. Et la sociologie a un peu complexifié ça en étudiant des différences à l'intérieur des groupes. Mais par exemple, une question tout à fait candide qu'on nous pose et que moi, en tant que sociologue de l'éducation, on me posait en permanence, c'était, mais au fond, quand vous avez dans une famille deux enfants qui n'ont pas du tout la même réussite scolaire, comment vous, sociologue, vous expliquez ça? Comment, alors que ces deux frères, qu'ils ont eu les mêmes ressources initiales, qu'ils ont des parents à même capital culturel, économique, pourquoi il y en a un qui a réussi à aller à l'université, etc., et que l'autre, il a un CAP? Ce qui arrive, voilà. C'est des situations qui arrivent, qui ne sont pas les plus fréquentes, mais qui arrivent. Si on veut arriver à répondre à ça, en sociologue, on est obligé de se poser des questions un peu différentes et de rentrer justement dans ces socialisations complexes des individus et comprendre qu'effectivement, à l'intérieur d'une même famille, il peut y avoir des variations inter-individuelles et que le même individu lui-même est très complexe parce qu'il peut avoir intériorisé différents types d'expériences et les déplier après de manière très différente, les distribuer, ces expériences, dans des contextes différents, voire à des moments différents de son parcours. Si on accepte de rentrer dans cette complexité-là, je pense qu'il y a on gagne en compréhension de nombreux phénomènes, que ce soit de l'échec scolaire, des rapports à la culture, etc. Mais c'est vrai que ça peut, au départ, effrayer les sociologues. Voilà, parce qu'on sort un petit peu des habitudes consacrées en sociologie.
Il y a un discours de la méthode quand on vous entend. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la sociologie, ça doit garder cette vocation scientifique, qui était celle au fond des pères fondateurs, et en même temps refuser ce qui est considéré aujourd'hui comme, j'allais dire, le signe de la professionnalisation, c'est-à-dire une approche sectorialisée de la vie sociale, puisqu'au fond, la sociologie que vous proposez, elle vise à maintenir cette exigence de scientificité sans céder sur les découpages préétablis qui correspondent, ce que vous avez dit, sociologie urbaine, sociologie de l'éducation. L'individu se déploie par-delà ces barrières plus ou moins institutionnelles. Mais il y a quand même un point sur lequel, au fond, il y a peut-être eu un malentendu dans la réception de votre œuvre. Là, je quitte le domaine de l'explicitation pour venir sur les enjeux de la réception. Si vous disiez au début de l'entretien, Bourdieu avait avec un habitus très homogène, bien décrit, je veux dire, les formes de résonance de pratique à l'intérieur des classes sociales. Et votre travail, donc, qui met en lumière cette variation non seulement inter-individuelle à l'intérieur d'une même classe sociale, mais même intra-individuelle, donc les différentes pratiques de l'individu, il est produit dans les années 90-2000, à un moment où il y a, dans le milieu ou dans le monde académique, mais au-delà, le monde social, il y a un débat sur la permanence ou le déclin des classes sociales. Et je crois qu'il y a eu des lectures alors, qui ont fait pencher votre travail des deux côtés. Finalement, on s'est dit, soit il y a encore, il n'y a plus assez de classes sociales chez Bernard Lahir, et au fond, il accepte cette idée du déclin des classes sociales, soit au fond, il y en a encore trop, puisque vous maintenez les classes sociales comme un élément de l'analyse. Alors, c'est peut-être un peu large comme question de vous demander votre position sur ce débat-là, mais comment est-ce que vous, vous aimeriez montrer, enfin énoncer l'articulation, je crois, que vous maintenez entre les deux, entre l'individu et la classe.
Oui. Bon, les collègues qui vraiment n'ont plus vu de classe sociale chez moi ont fait quand même des efforts pour ne pas me lire. Hein. Parce que, si vous voulez, si j'ai commencé à travailler sur les rapports des enfants de milieux populaires à l'institution scolaire. Donc je définissais ma population à partir de l'origine sociale des élèves. Puis j'ai travaillé sur les quatre milieux populaires qui réussissaient par rapport à ceux qui échouaient. Donc là, c'est la construction de la population, c'était comparer des enfants dont les parents étaient globalement issus des milieux ouvriers ou petits employés urbains. Puis dans la culture des individus, j'ai des chapitres par classe sociale, quasiment. Donc c'est très difficile de me reprocher de ne pas tenir compte des classes sociales. Par contre, ce que j'ai dit, c'est que ça n'est pas parce qu'on quitte l'analyse macro-sociologique à un moment donné des écarts entre groupes ou entre classes qu'on refuse l'idée de l'existence de ces écarts. Personne ne dirait, par exemple, et c'est pour ça, ça prouve que la sociologie est parfois un peu naïve, je trouve, encore par rapport à des domaines scientifiques beaucoup plus installés. Personne ne reprocherait à quelqu'un qui observe les planètes de nier l'existence de molécules. Enfin, ça n'aurait vraiment aucun sens. Alors qu'en sociologie, nos objets sont tellement politiques, au fond. Et c'est normal, c'est comme ça. On traite de questions qui sont éminemment sociales et politiques. Donc, quand un collègue commence à travailler sur des cas de variation interindividuelle ou intra-individuelle, on peut le soupçonner de disséminer... d'avoir
un agenda politique implicite, en fait.
Oui, voilà. Et de donner l'impression qu'il n'y a plus d'écart entre groupes, il n'y a plus d'écart entre classes, que les classes disparaîtraient, qu'il n'y aurait plus qu'une individualisation des comportements, etc. Bon, moi je pense qu'effectivement, on est dans des sociétés qui ont des tendances individualisantes. Personne ne peut contester ça aujourd'hui. On a des formes d'individualisation liées à des formes de différenciation sociale de plus en plus fortes. Norbert Elias a parlé de ça, je pense, assez bien, montrant que progressivement, cette division sociale du travail, finalement, conduisait les individus à être étrangers les uns par rapport aux autres. Ils appartenaient à des communautés de plus en plus petites, etc. Bon, ceci dit, si on regarde maintenant la société telle qu'elle est à partir de critères objectifs qu'on mettait en œuvre dans les années 1950-1960, de niveau de revenus et de niveau de ressources culturelles, on a toujours des classes objectivement. On a des classes de conditions d'existence.
Oui, et symétriquement, vous montrez d'ailleurs à partir d'une relecture des données de la distinction, de manière très intéressante, que si on prend les mêmes données par lesquelles Bourdieu a démontrer ou montrer l'existence d'habitus de classe très homogènes, on pourrait mettre en lumière des variations.
Absolument. Quand vous avez des tableaux statistiques qui vous montrent qu'il y a toujours une petite partie du groupe qui ne se comporte pas comme la majorité du groupe, mais parfois, ce n'est pas la majorité. C'est même des écarts très relatifs entre les groupes sociaux, et on voit que, par exemple, si je prends l'exemple du cinéma d'auteur, on dit toujours, voilà, un cinéma intellectuel, etc. Il faut savoir lire les données statistiques. C'est une minorité des gens à fort capital culturel qui déclarent préférer le cinéma d'auteur. Donc il ne faut pas confondre la logique que j'appelle souvent la logique des salles de spectacle. Si vous allez à l'opéra, à l'intérieur du public de l'opéra, vous avez essentiellement des gens qui viennent de milieux à fort capital culturel. Maintenant, l'horizon naturel de quelqu'un qui a un fort niveau de capital culturel ou qui vient de la bourgeoisie, c'est de ne jamais aller à l'opéra. Donc il faut quand même garder ces données-là, les avoir à l'esprit en même temps pour ne pas caricaturer des différences entre groupes ou entre classes.
Donc on voit bien un des indicateurs de cette pluralité dispositionnelle et de ces tendances de la société à l'individualisation, c'est la dissonance culturelle, c'est-à-dire l'idée, ça c'est ce que vous avez montré, démontré, j'allais dire avec une enquête qui avait différents aspects quantitatifs et qualitatifs dans la culture des individus. Donc c'est l'existence. J'allais dire ultra majoritaire de cette dissonance culturelle. C'est-à-dire qu'on a des pratiques, on va à l'opéra, on regarde la Star Academy, pour être très, très caricatural. Mais au fond, il y a une autre dimension qui est que vous faites apparaître, au fond, une forme de stratification sociale, une forme qui est légèrement décalée par rapport à celle des classes qui vous sert d'analyse. C'est-à-dire, au fond, ne sont consonants, c'est-à-dire non des pratiques qui sont les mêmes, quel que soit le type d'activité culturelle, que ceux qui sont soit très haut dans l'espace social, soit très bas. Oui. C'est-à-dire il y a des gens qui sont consonants par le haut consonants par le bas. Et au fond, au milieu, vous avez une dissonance plus ou moins importante selon les milieux sociaux. D'autant plus importante qu'on est relativement haut dans l'espace social. Mais est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer la signification sociologique de cette distribution, et notamment, j'allais dire, des éléments les plus hauts de la distribution, c'est-à-dire quel est le sens subjectif et sociologique de cette consonance qui perdure dans certains milieux de la société.
Si vous voulez, quand on regarde un petit peu ce qui se passe en matière de rapport aux différentes activités culturelles, du cinéma, musique, lecture, télévision, etc., on se rend compte que c'est d'abord les classes moyennes, c'est pas les classes supérieures qui fournissent le plus gros pourcentage de profils dissonants, c'est-à-dire de gens qui, quand on regarde le degré de légitimité culturelle de leur activité, peuvent avoir une pratique de lecture qui est très légitime et se laisser aller du point de vue du rapport à la télévision, ou avoir une pratique beaucoup plus détendue du point de vue de la culture légitime quand ils vont au cinéma. Bon. Donc on a comme ça des variations du degré de légitimité culturelle. Sauf qu'effectivement, on trouve une concentration de gens qui ont un habitus culturel extrêmement homogène, soit très en haut de l'espace social, soit très en bas. Alors c'est pour des raisons proches d'une certaine façon. Il y a des conditions de socialisation extrêmement homogènes, soit par le contrôle énorme
du groupe,
voilà, et de sa reproduction. Là, vous avez, on avait fait une enquête sur les pratiques éducatives en milieu bourgeois à Lyon, et on voyait très bien comment les maires prenaient très très au sérieux le travail de mise en cohérence de l'ensemble des pratiques. On contrôlait les fréquentations, les livres lus, les sorties, les amis, etc. Et là, on voit qu'il y a un programme de socialisation extrêmement cohérent. Souvent, vraiment, rien n'est laissé au hasard pendant très très longtemps. Tant qu'on a un peu d'influence sur les enfants, on a comme ça ce programme de socialisation, choix de l'école, enfin bon, on pourrait comme ça multiplier les indices. Inversement, on a une homogénéisation des conditions de socialisation par la précarité, par le fait qu'on est démuni, par la pauvreté culturelle et économique. Et donc, on a effectivement affaire à des habitus beaucoup plus cohérents au debout de l'espace social. Pour ces raisons-là. À chaque fois, je pense que ce qu'il faut repérer, c'est les possibilités pour un individu d'avoir fréquenté des contextes socialisateurs différents. Alors, on voit que les classes moyennes sont très, très concernées par ça, parce qu'en plus, les classes moyennes sont le passage, en fait, de gens en déclin, de gens qui montent, etc. Mais, Bourdieu l'avait d'ailleurs signalé à l'époque, mais ne savait pas trop quoi en faire de la distinction. C'était assez intéressant de voir qu'il disait que les gens pouvaient être ambivalents, pouvaient être mixtes, etc. Mais là aussi, il n'insistait pas, parce que le plus important, c'était d'arriver à mettre en cohérence ces cultures-là. Et bon, on a beaucoup parlé de bonne volonté culturelle pour les classes moyennes. Mais on voit que c'est dans les classes moyennes que les déplacements, les socialisations contradictoires ont été les plus fréquentes. Mais ça concerne quand même très très peu de monde aux deux bouts de l'espace social, ces socialisations très homogènes. Donc c'est ça qui est intéressant. On voit qu'on n'a pas les mêmes conditions selon l'endroit où on se trouve dans l'espace social.
Ouais. Et là, on trouve un fil. Alors ça a été beaucoup moins commenté, peut-être de manière un peu injuste à mon sens. Il y a un élément de continuité avec le travail de Bourdieu. C'est qu'au fond, chez Bourdieu, dans la distinction, les groupes sociaux étaient en lutte à travers des signes qu'ils imposaient ou qu'ils extériorisaient. Et là, on voit dans votre réflexion, comme vous, de la même manière que vous dites que les maires dans les milieux bourgeois transmettent par un travail la reproduction qui n'est pas absolument pas automatique. C'est-à-dire il y a une vraie lutte pour l'acquisition du goût de la lecture, par exemple, vous le montrez très bien ça. Et ben, là, il y a le signe d'une lutte qui est plutôt à l'intérieur de l'individu pour parvenir à une homogénéité de ses pratiques, de ses goûts. Donc au fond, il y a une forme de... C'est-à-dire, l'aspect de lutte immanente à la vie sociale chez Bourdieu, mais qui se déployait dans l'extériorité, au fond, on a le sentiment que dans votre travail, et c'est le sens peut-être du sous-titre, la distinction de soi, oui, c'est-à-dire de parvenir à une forme de mise au jour de la lutte interne, intra-individuelle, qui produit la distinction sociale.
C'est ça. C'est-à-dire que je pense que si on avait fait des enquêtes dans les années 70, on aurait trouvé exactement ce que j'essaye de dire. Simplement qu'on ne faisait pas des enquêtes en posant des questions aux enquêtés sur la manière dont ils vivaient ces écarts. Il suffit de leur poser la question pour, je pense, tomber sur ce type de problème. Que disent les enquêtés ? Moi, j'ai fait l'analyse d'une centaine d'entretiens et on voyait des enquêtés qui, en permanence, avaient le sens des hiérarchies culturelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effacement. Ce n'est pas parce qu'ils ont intériorisé des pratiques culturelles différentes, ce n'est pas parce qu'ils ont un éventail très large de pratiques que tout se vaut. Je dis ça au passage parce que beaucoup de commentateurs pensent que du coup, on est dans le relativisme généralisé, que c'est très dangereux, etc. Ouais. Pour le moment, les individus que j'ai interrogés, non, font bien la différence entre des choses qui sont élevées et des choses qui sont basses. Ils regrettent de passer trop de temps devant la télévision, devant certaines séries ou programmes de télé-réalité, etc. Et donc, ils parlent d'eux-mêmes négativement. C'est ça qui est intéressant. Ils hiérarchisent leurs pratiques. Et ils se plaignent d'une partie d'eux-mêmes, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là à parler un petit peu comme des drogués qui disent « j'essaye de m'arrêter ». Le discours assez récurrent, par exemple, sur la télévision, c'est « j'aimerais pouvoir m'arrêter ». Parce que c'est vrai que je perds du temps devant des choses que je trouve stupides, etc. Mais c'est déstressant, mais ça me permet de me défouler. C'est entre ça et un documentaire sur Arte, ben franchement, il y a un moment où je vais choisir le divertissement sur TF1, etc. Pour des gens qui ont parfois un très haut niveau de culture scolaire. Donc, bon. Donc ces gens parlent en permanence de la lutte qu'ils peuvent avoir contre eux-mêmes parce qu'ils ont intériorisé ces hiérarchies-là. Et bon, je pense que la peur de chuter, la peur de la déchéance est un moteur de distinction, finalement. C'est ne pas se laisser aller, ne pas descendre, chercher en permanence à garder contact avec ce qui élève, ce qui est haut dans la hiérarchie, etc. Et là, on voit qu'il y a effectivement des individus qui... pensant à leurs différentes pratiques, disent malheureusement je fais ça. Ils s'excusent toujours un petit peu pendant l'entretien en disant oui c'est vrai que je fais ça. Bon, c'est moins bien. Il faudrait que je passe moins de temps. Oh c'est exceptionnel ou c'est pendant les vacances. C'est quand je suis fatigué. Enfin, il y a mille raisons d'ailleurs que j'essayais de décrypter un peu dans l'ouvrage. Mais on voit bien que c'est eux-mêmes qui sont au jeu. Et souvent même, la distinction se fait par rapport à des gens très proches dans l'entourage et pas par rapport aux classes sociales. Le fond de ces distinctions sont effectivement des grandes différences sociales. Ça, je pense que Bourdieu avait raison de dire qu'il y avait des fonctions sociales de la culture et que on avait bien le peuple à l'esprit pour se distinguer, avoir un certain nombre de pratiques distinguées, distinctives, etc. Ceci dit, dans la vie quotidienne des gens, c'est plus par rapport à un frère, un voisin, un collègue de travail, etc., et par rapport à soi-même, souvent, que on voit fonctionner le moteur de la distinction.
Voilà, c'est, on voit fonctionner le moteur de la distinction. D'une certaine manière, la leçon, c'est du travail que vous faites avec, voilà, vous l'avez dit, avec et contre Bourdieu, c'est-à-dire de l'homme pluriel jusqu'à la condition littéraire, en passant par la culture des individus. C'est ce travail de dépassement, s'expliquer peut-être sur ce terme, mais en tout cas de faire rentrer dans la boîte noire, plus que de nier la réalité des grandes fonctions de reproduction sociale que Bourdieu mettait au jour, mais c'est de faire apparaître leur mode opératoire, donc de faire rentrer dans la boîte noire comment se fabriquent au fond ces différences qu'on voit un petit peu comme un spectacle tout entier déployé dans l'extériorité. Et d'une certaine manière, dans ce dépassement, il y a quand même un aspect immense, je veux dire, de conservation, quelque part. Je veux dire, c'est d'aller plus loin, parce qu'encore une fois, on a beaucoup lu votre travail comme une négation de celui de Bourdieu. Et au fond, peut-être que vous le concevez plus comme, dans les termes philosophiques que j'ai appris, dans le dépassement, il y a un moment de conservation. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement une articulation avec ce qui avait été fait.
Oui, alors là, la réception peut être complètement contrastée par rapport à mon travail. Soit on pointe évidemment le déplacement, et alors on dit que je romps avec un certain nombre de questions posées par Bourdieu ou de manières de résoudre un certain nombre de problèmes, ce qui est vrai. Soit on se rend compte que je suis en train de débattre avec cette tradition. Donc je me mets sur le même terrain d'une certaine façon. Je repars des problèmes qu'il a posés et. À mon avis, je pense qu'il a posé un certain nombre de problèmes. Parfois, il les a résolus avant même de les avoir posés et en tout cas déployés empiriquement. Souvent, je me retrouve devant ce genre de situation. Bon, l'habitus, moi, ça m'a passionné comme étudiant de sociologie. Quand on va y voir, forcément, on sort de ce que dit Bourdieu. Et s'il était allé voir de près comment ça fonctionnait, il aurait sans doute trouvé les mêmes problèmes à la définition de départ. Bon, on ne peut pas reprocher à Bourdieu de ne pas avoir fait ça, il a fait mille choses, etc. Mais en tout cas, voilà, moi je ne me pose pas le problème de Bourdieu, pas Bourdieu, je dis ces questions-là m'intéressent, il se trouve qu'il est porteur de ces questions-là à un moment donné, mais c'était des vieilles questions de la sociologie, qu'on trouve aussi bien chez Weber que chez Durkheim, dans sa socialisation, dans sa sociologie de la socialisation, de l'éducation, chez Weber dans sa sociologie de la religion. C'est des grandes questions qu'on trouve chez Mauss aussi, que j'essaye de reformuler en complexifiant le problème et en étudiant le social donc à cette échelle individuelle et à l'état plié, comme on évoquait tout à l'heure.
Ça me permet de faire une transition des résultats de ce que vous avez montré et de l'ensemble des thématiques dans lesquelles vous avez déployé cette approche d'une sociologie donc qui tient compte des dispositions et des contextes pour faire venir mettre au jour des variations. On peut s'intéresser aussi au comment, c'est-à-dire comment est-ce vous avez réussi à produire finalement une relecture de ces grandes questions qui, comme vous dites, ne sont pas simplement liées à la tradition de Bourdieu, mais qui en fait remontent au début de la tradition sociologique. Et donc, dans les moyens, il y en a un en tout cas qui paraît évident quand on lit vos ouvrages, quand on les traverse, c'est la force et la récurrence des références littéraires. C'est-à-dire, on a le sentiment qu'alors que l'écriture, et sauf chez quelques sociologues qui ont des démarches très, très singulières, on peut penser à Jean-François Lahaye par exemple, mais l'écrit n'est pas interrogé en tant que tel, en tant que médium ou en tant que, en tant qu'instrument de production de contenu de pensée. Et chez vous, on a le sentiment, peut-être le premier point, c'est de voir les références aux écrivains comme support pour dépasser ces problématisations, presque naturalisées des problèmes sociologiques. un exemple tout simple, et peut-être sur lequel vous pouvez rebondir si vous le souhaitez. Dans L'homme pluriel, vous parlez d'un modèle proustien de l'acteur. Donc comment est-ce que Proust, finalement, a quelque chose à dire à un sociologue du début du XXIe siècle?
Ah, si vous voulez, il faut lire Proust pour s'en rendre compte, et finalement, il y a peu de sociologues qui ont lu Proust, je pense. On a souvent plus tendance à lire Balzac ou Zola que Proust. Proust, si vous lisez ses textes, vous vous rendez compte qu'il met en scène des acteurs forcément individuels. C'est ça, le roman raconte des histoires individuelles. Il peut y avoir, selon les romans, des dizaines d'individus ou deux, trois individus en question, etc. Mais c'est toujours centré sur des individus. Et il se trouve que la sociologie implicite de certains auteurs de littérature est beaucoup plus subtile et complexe, alors que les sociologues de leur temps, ça, il n'y a pas de doute, mais il me semble que beaucoup de sociologues contemporains. Ceci dit, ce ne sont pas des sociologues. Je suis extrêmement prudent sur cette question-là. Un auteur de littérature ne prouve rien. Il n'est pas là pour prouver, il n'a pas des preuves, on ne lui demande pas ses archives ou ses observations, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en faisait pas, parce que quand vous voyez le travail de Flaubert, Zola, de Proust, etc., pour noter, comme des ethnographes, ce qu'ils observaient dans le monde social, on voit que c'est assez formidable, c'est très très proche du travail du sociologue.
Oui, vous parlez notamment du Zola, du roman expérimental, oui, qui avait une approche presque clinique des problèmes,
absolument,
au fond.
Absolument. Et donc, c'est quand vous lisez Proust, vous voyez que il définit les individus par un certain nombre d'héritages, souvent des héritages complexes, et là, ça commence à m'intéresser. C'est-à-dire qu'on voit qu'il ne les définit pas uniquement par une origine sociale globalement, comme ça, attribuée. Ils ont plusieurs héritages, et selon le contexte dans lequel ils se trouvent, ils n'agissent pas de la même façon. Ça, bon, évidemment, ça ne peut que m'intéresser. C'est-à-dire qu'il y a un souci chez Proust d'arriver à comprendre ces déterminismes sociaux extrêmement fins à l'échelle individuelle. Alors, à l'échelle individuelle, encore une fois, c'est la caractéristique de la plupart des romanciers. Puisque un romancier, la plupart du temps, ça arrive qu'il ne le fasse pas, mais le plus fréquemment, travaille sur des individus, sur des histoires de vie, sur des interactions entre individus, sur des individus en confrontation avec d'autres, de milieux différents, etc. Chez Proust, on a un modèle sociologique implicite qui est extrêmement, extrêmement complexe, et beaucoup plus complexe que ce qu'il en dit lui-même quand il théorise un peu sa pratique littéraire. C'est ça qui est aussi passionnant.
Oui, d'une certaine manière, ces auteurs, il y a Proust, mais il y a également Montaigne, Pirandello, qui sont très présents, on a l'impression qu'ils donnent des ressources pour poursuivre en sociologie, dans la pratique, là, pour le coup, scientifique, et en prenant en compte le bagage, tout ce qui a été accumulé par les différents praticiens d'une époque, mais ils offrent une ressource qui a l'impression, qu'on a le sentiment qu'elle est irremplaçable, au fond. Il n'y a pas de décalage.
C'est pas la seule ressource, mais moi je pense qu'il faut piller la littérature, il faut piller la philosophie. Alors ça, c'est Jean-Claude Passeron qui conseillait à ses étudiants de piller les philosophes.
Oui, donc faire des boîtes à outils, tout simplement.
Absolument. On trouve chez des philosophes obscurs des formulations de problèmes extrêmement théoriques qui, d'un coup, dans notre pratique de sociologue, nous sert. C'est, je pense, le même problème pour un certain nombre de physiciens qui tombent sur des problèmes mathématiques en disant, voilà, un modèle qui peut me servir dans ma pratique de physicien. On retrouve à peu près la même chose. Alors, moi, je fais ça sur la philosophie et de plus en plus consciemment sur la littérature. En lisant des écrivains, pas simplement pour le plaisir, pendant les vacances ou durant le week-end, on a, je pense, un intérêt à faire ça pour la richesse de sa pratique sociologique. Ça n'est pas une confusion entre littérature et sociologie. La littérature, c'est la littérature. La sociologie, c'est autre chose. Il y a de la méthode, il y a de la vérification, il y a une volonté de vérité qui n'est pas du même type. Mais voilà, il y a ces ressources-là, et ce sont des ressources souvent extrêmement fine, extrêmement subtile. On trouve aussi de la mauvaise littérature de ce point de vue-là, hein. Donc il y a tout en littérature, mais on a des auteurs qui sont particulièrement, je trouve, utiles ou rentables pour un sociologue.
Ouais. Et d'ailleurs, une des directions qu'a pris votre travail après la sociologie de la légitimité culturelle ou la sociologie de l'acteur, ça a été d'étudier la sociologie au fond de la production des œuvres symboliques et des conditions matérielles. Parce que Bourdieu avait travaillé à partir du cas de Flaubert sur la question du champ littéraire, et au fond, vous avez produit une relecture de cette notion à partir de la vie concrète des écrivains. Alors, une question peut-être toute bête, mais de praticien et un peu naïve, mais est-ce que la vie concrète de l'écrivain ressemble ou dissemble de la vie concrète du sociologue ou de celui qui est dans la production d'œuvres, j'allais dire, académiques? En tout cas, est-ce que votre position de sociologue est une ressource pour étudier ses cousins ou ses...
C'est très cousin. J'ai passé mon temps dans la condition littéraire, dans cet ouvrage, à dire qu'il y avait des cousinages. Simplement qu'en tant que sociologue, nous sommes payés pour rester dans cet univers en tant que sociologue. Alors qu'un écrivain, sa grande condition sociale, c'est la plupart du temps, pour la grande majorité d'entre eux, de ne pas pouvoir vivre de la littérature. Donc d'avoir soit un second métier, ce qui est le plus fréquent, soit d'avoir la chance d'être rentier, ce qui était le cas de Flaubert. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si, d'une certaine façon, Bourdieu a étudié le cas de Flaubert. Flaubert, c'est l'homme plume, comme on disait à l'époque, l'homme réduit à sa plume, qui est rentier, qui n'a comme seul problème la littérature.
Oui. Et donc toutes les questions que se pose Flaubert sont médiatisées par le rapport à l'histoire littéraire, puisqu'il n'a les conditions matérielles qui lui permettent de n'exister que dans cette sphère symbolique.
Il a réduit sa vie à la littérature, d'une certaine façon, et au milieu littéraire.
Et vous montrez que là aussi, on est plus dans l'exception que dans la moyenne, puisque au fond, les écrivains que vous avez interrogés, je crois qu'il y en a plus d'une quarantaine, enfin beaucoup plus dans le cadre d'une enquête quantitative, au fond, vivent, j'allais dire, traversés par les contradictions de la vie sociale
Absolument.
La plus quotidienne.
Pendant très longtemps, beaucoup d'écrivains qui sont aujourd'hui reconnus ont conjugué second métier, comme on dit, mais qui était leur premier métier, leur seul métier, leur seul métier rémunérateur. Et donc conjuguer ça avec la littérature. Alors on peut étudier les carrières et se rendre compte que certains ont une certaine chance à un moment donné de constituer un public suffisamment grand, l'attribution d'un prix pouvant être une étape importante pour de reconnaissance médiatique, etc., et de stabiliser un public. Mais on a aussi des cas de gens qui ont eu des grands prix, par exemple des prix Goncourt, et qui, 10 ans après, ne vivent plus du tout de leur littérature. Donc, c'est un univers qui n'est pas institutionnalisé, qui n'est pas codifié, qui est extrêmement flou dans ses frontières, et les gens qui rentrent en littérature peuvent disparaître assez rapidement. Ils peuvent commencer chez Gallimard et terminer chez des petits éditeurs, parce qu'ils n'ont pas réussi à vendre suffisamment d'ouvrages, ou ils ont été un peu lâchés par leur éditeur, etc. Donc on a tous les cas de figure, ce qui n'est pas le cas des sociologues, par exemple. On a des instruments qui stabilisent. On rentre dans un poste et on reste sociologue, sauf grosse faute professionnelle. J'ai rarement vu un sociologue disparaître du champ de la sociologie du jour au lendemain. Donc on a comme ça des univers qui ne s'organisent pas de la même façon. Et ce qui est intéressant, c'est que ces écrivains sont dans des univers parallèles. Et j'essayais d'étudier la manière dont ils passaient en permanence de l'univers du second métier à l'univers littéraire, comment il gérait ça sur plusieurs années, parfois dans la semaine, comment ils découpaient leur temps, comment ils essayaient de se mettre en condition d'écrire alors qu'ils étaient pris par les soucis de leur métier, de leur vie de famille, etc. Et donc le but, c'était d'essayer de faire une sorte d'anthropologie du travail d'écrivain et de comprendre finement la manière dont ils pouvaient pratiquer cette activité qui est quand même un peu particulière.
Ouais. Alors, c'est évidemment une problématique assez, très contemporaine, parce que l'augmentation du niveau scolaire moyen fait que beaucoup de gens ont des vocations littéraires, oui, dire qu'ils soient marginales ou très importantes, mais un des points, et c'est là que le fil se fait sans, je veux dire, avec une grande évidence avec les travaux antérieurs, c'est que vous montrez comment ces pluralités de contextes d'existence sociale, au fond, quand on les prend en compte, la pauvreté des biographies strictement littéraires.
C'est ça.
C'est-à-dire de montrer que la seule inscription dans un champ opère j'allais dire, une réduction dramatique de la richesse existentielle. Donc cette continuité-là dans votre travail, elle est quand même très, très, très nette. Mais si, peut-être c'est peut-être la dernière question, sous forme de conclusion ou d'ouverture, je ne sais pas si on peut... On parlait de conclusion, certainement pas, mais vous avez dit, dans cette différence, ce cousinage hein, entre sociologue et écrivain, qu'il y avait une grande différence, c'est que quelque part, les sociologues étaient protégés par leur statut. C'est-à-dire qu'il y a un statut, la plupart du temps, c'est un statut d'enseignant-chercheur,
C'est ça.
fonctionnaire, qui garantit une certaine indépendance en même temps que la possibilité de projeter son travail dans la longue durée. À de nombreuses reprises, vous êtes plongé dans la plus grande partie de votre travail, un travail théorique ou un travail d'enquête, plus ou moins articulé, mais il y a une partie de votre écriture, de votre production, qui renvoie à l'état du monde académique. Et au fond, on a le sentiment que vous cherchez à défendre une certaine idée de la pratique ou du métier de sociologue, ce que Bourdieu et Passeron appellent le métier de sociologue. Et juste une question, c'est de savoir, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, quelles sont les menaces qui font qu'il y a besoin d'intervenir, je veux dire, de manière aussi bon, forte que vous le faites, quelle est l'idée du métier que vous défendez par ce type d'intervention là, sur des sujets qui peuvent être d'ailleurs très variés, en allant de la réforme de l'école primaire jusqu'à l'affaire dite Elisabeth Tessier.
Alors, vaste débat, hein, vous me donnez 2 heures, je pourrais y arriver. Si vous voulez, bon, moi je pense que la sociologie, si vous comparez historiquement des états différents de la discipline, elle se porte plutôt bien aujourd'hui. Et si on regarde le niveau d'exigence des thèses aujourd'hui, elle les sent comme une mesure avec ce qui existait il y a 40-50 ans, ça, il n'y a aucun doute. Et ceux qui ont vécu cette période, bon, moi je suis souvent en colère devant un certain nombre de situations, mais des collègues beaucoup plus âgés que moi me disent, mais tu ne te rends pas compte l'amélioration des conditions. Et je crois qu'ils ont raison. Simplement qu'aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire d'une certaine hétérogénéité dans la discipline. Je pense que la sociologie est encore trop souvent le lieu du meilleur comme du pire. Il y a des choses formidables qui se passent avec des degrés de sophistication de plus en plus élevés, un degré de réflexivité incroyable. Depuis Durkheim jusqu'à nous, enfin, on peut mesurer le degré de complexification des problèmes qu'on a pu conquérir. Donc, ça va de mieux en mieux, mais il y a encore des zones de la sociologie. On voit régulièrement apparaître des gens qui s'auto-attribuent le titre de sociologue alors qu'ils n'exercent pas véritablement le métier de sociologue. On trouve des sociologues tout à fait patentés et qui ne font pas vraiment honneur à la pratique du métier de sociologue. Donc, il y a un vrai enjeu. Alors pourquoi il y a un enjeu, il me semble, majeur? C'est pas juste une question de pureté d'une discipline, etc. C'est qu'on est quand même là pour produire de la vérité sur le monde social. Moi, je crois qu'on est là pour produire ça. Bon, il y a des collègues qui seront sans doute plus pessimistes que moi. Je pense que voilà, notre travail, c'est d'éclairer un peu mieux un certain nombre de choses, qu'on ne puisse pas dire n'importe quoi sur tel ou tel aspect dans le monde social. Et donc, il y a un enjeu énorme, qui n'est pas simplement scientifique, détaché de tout problème social, c'est des enjeux politiques. Veiller à la qualité des travaux de la sociologie, c'est veiller, à mon sens, à ce que le débat démocratique puisse se faire dans de bonnes conditions. Parce que si on peut dire tout et n'importe quoi, alors ça pose problème. Donc moi je pense que les sociologues devraient se poser des questions qui étaient celles des sociologues effectivement des années 60-70 qui disaient c'est quoi le métier de sociologue, dans quelles conditions on peut revendiquer cette pratique, c'est des conditions méthodologiques, c'est des conditions d'enquête, quelle que soit la forme de l'enquête, qu'on travaille sur archives, par observation, par entretien, sur des données statistiques, etc. Mais c'est toujours travailler sur des matériaux, Et tous les collègues ne font pas ça, malheureusement. Vous avez des sociologues qui disent, moi je théorise uniquement, ou je sens le monde social, on ne sait pas bien comment. Bon, voilà. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à des pratiques qui sont très relâchées du métier de sociologue, parce qu'il y a des enjeux terribles.
Ouais, et juste, alors c'est au fond, une des mises en garde que vous faites dans ces interventions, c'est de dire les sociologues ont tendance, contrairement à d'autres disciplines de sciences sociales, où on peut penser à l'histoire notamment, à avoir une facilité à la généralisation. C'est-à-dire, parler de citer Wittgenstein qui dit que le langage nous permet de passer très vite du substantif à la substance, c'est-à-dire de réifier des phénomènes, d'homogénéiser une complexité sociale. Et au fond, alors peut-être c'est une des propositions que vous faites depuis maintenant de nombreuses années avec ce travail sur le social à l'échelle de l'individu, c'est une tendance à aller à un certain nominalisme sociologique et d'une certaine manière d'oser avoir un propos scientifique, y compris à partir d'une monographie, de l'étude d'un destin ou d'une vie. Alors peut-être juste pour là pour le coup vraiment vraiment ouvrir, est-ce que vous pouvez nous dire un mot du projet éditorial qui va aboutir prochainement et qui a un travail sur continuer la sociologie de la production des œuvres symboliques à propos du cas de Franz Kafka, je crois.
Oui, c'est ça. Ça ne se comprend que par rapport à l'ensemble des choses que j'ai pu faire avant. C'est vraiment un travail qui n'aurait pas pu être pensé avant d'avoir écrit un certain nombre de choses, clarifié un certain nombre de choses, mené des enquêtes extrêmement variées. Bon, puisque c'est... Le projet, c'est d'aller au bout de l'étude d'une singularité, donc de s'affronter à l'idée d'une biographie sociologique. Bon, on a beaucoup dénoncé l'illusion biographique, donc il y avait des enjeux terribles et des peurs, des craintes.
Ouais, on parlera de la réception de votre ouvrage quand il est.
Donc, moi je pense qu'il n'y a pas à craindre de faire de la biographie sociologique, simplement que c'est une forme de biographie qui n'est pas une biographie littéraire, qui n'est pas une forme de biographie anecdotique ou simplement événementielle, c'est une biographie qui est construite, etc. Et si vous voulez, le problème, c'est que c'est surtout, on ne peut pas faire autrement que de rentrer dans le détail de la fabrication d'un individu, ici, c'est le cas de Franz Kafka, si on veut arriver à comprendre la nature de son œuvre. Un des points sur lesquels bloque la sociologie de la littérature depuis longtemps maintenant, c'est de rentrer dans les œuvres et de les interpréter. Au fond, on a beaucoup fait de la sociologie du milieu littéraire, des réseaux littéraires, des revues, des stratégies littéraires, éditoriales, etc. Tout ça, on sait très bien faire. Et généralement, les critiques littéraires sont très contents parce qu'au moins, l'essentiel n'est pas touché. Et l'essentiel pour eux, évidemment, c'est le texte. Alors, je ne dis pas que l'essentiel, c'est le texte, mais le texte, c'est quand même au cœur de l'activité. Donc, la question, c'est est-ce que les sociologues peuvent se donner les moyens de rentrer dans l'analyse des textes sans faire, effectivement, de sociologisme, sans projeter des choses un peu trop grossières sur ces textes. Pour faire ça, je pense qu'il faut rentrer dans le détail de la fabrication sociale d'un individu, de voir comment il a été socialisé, quelles ont été ses conditions familiales, scolaires, politiques, etc. Sa socialisation littéraire, bien évidemment, pour voir comment s'inscrivent tous ces effets de socialisation dans son œuvre littéraire. Et j'ai essayé de le faire sur un auteur qui n'est pas des plus faciles, mais qui est passionnant de ce point de vue-là, le cas de Kafka, que j'avais commencé à travailler, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans la condition littéraire, puisque c'est un beau cas de
double métier,
de double vie,
là, pour le coup.
Voilà, de double vie, puisque employé essentiellement dans une compagnie d'assurance, il est juriste dans une compagnie d'assurance, il passe ses soirées et parfois une partie de ses repos à faire de la littérature. Voilà.
Bah donc, on découvrira Franz Kafka, élément pour une théorie de la création littéraire. Je retrouve les petites fiches. Bernard Lehr, merci beaucoup.
Merci à vous.